Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous retrouver dans Radio Foot International en ce début de semaine avec beaucoup d'actualités aujourd'hui et deux hommes dans cette actualité, notamment le lauréat du prix Marc-Vivien Fauré.
Ça représente quelque chose déjà, être le meilleur joueur africain en Ligue 1, c'est déjà quelque chose de bien, sachant que ce championnat est très relevé.
Nicolas Pépé, lauréat du prix Marc-Vivien Fauré 2019. L'international ivoirien s'est confié au micro de RFI. C'était à Lille et vous l'entendrez dans Radio Foot International. Vous l'entendrez parler de sa saison, de lui, de son statut d'éléphant à la veille de la CAN en Égypte. Son entraîneur Christophe Galtier, des camarades de jeu et puis Yaya Touré et Didier Drogba vous parleront de Nicolas Pépé, le successeur du Camerounais Karl Toko Ekambi. Kylian Mbappé, l'hommage de ses pairs et une phrase choc, récompensé comme meilleur joueur et meilleur espoir du championnat de Ligue 1, le meilleur buteur aussi de ce championnat, Kylian Mbappé a donc envoyé un message qui laisse penser que sa carrière pourrait se poursuivre ailleurs qu'à Paris et ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Chantage envers ses dirigeants ou bien envie véritable d'une nouvelle aventure ailleurs. Les avis sont très partagés, vous l'entendrez, ça a déjà commencé avant l'émission et ça continuera donc pendant l'émission. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes là pour nous parler hein, en tant que joueur et ancien du Paris Saint-Germain. Reste ou reste pas?
Moi, je pense qu'il reste.
Vous pensez qu'il reste. Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On va parler Nicolas Pépé, vous inquiétez pas, mais en ce qui concerne Kylian, vous dites quoi, vous?
Je sais pas, je n'ai pas les informations de Nabil Djellit.
Bonjour Nabil Djellit.
Je vais vous donner une info, tout ce que je peux vous dire, c'est que il reste ou il reste pas, Nicolas Pépé reste pas à Lille.
Ah oui. Deux infos, ça, donc, dans une phrase.
Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Annie Gasnier.
Olivier, c'est l'homme qui a vu l'homme, parce que c'était lui notamment qui était allé à Lille pour... au nom de RFI. Radio Foot, c'est parti.
Marc-Vivien Fauré, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun.
Prix Marc-Vivien Fauré, RFI France 24.
Et là, ça peut faire mal, parce que là, il n'y a pas photo, évidemment. Nicolas Pépé, qui a pris le dessus face à Subotic, et encore, c'est la deuxième accélération, un but. But de Nicolas Pépé.
Ah oui.
Qui... tout seul a humilié la défense stéphanoise là.
C'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Nikone.
Un petit festival Nikone avec Nicolas Pépé à l'approche de la surface de réparation, la frappe de Pépé. Il est terrible d'efficacité Nicolas Pépé.
Nicolas Pépé, large vainqueur du prix Marc-Vivien Fauré. Peu de suspense cette année dans le trio hein, qui restait à départager. Il était en tête eh bien, de la plupart des votes de nos membres du jury. Et d'ailleurs, il est premier avec 379 points, alors que le second, le Tunisien Wabi Kazri, a 140 points. Et le Sénégalais de Rennes, Ismaïl Assar, a lui 68 points. Vous voyez l'écart. Nicolas Pépé, deuxième buteur de ce championnat actuellement avec 22 buts. Un dog, star du LOSC et de la Ligue 1. Meilleur africain donc 2018-2019. Est-ce que Franck Simon, vous trouvez ça logique ou alors vous êtes étonné?
Chic, j'ai voté pour Nicolas Pépé.
Vous faites partie aussi de
ce trio. J'ai que lui de bon dans mon trio parce que j'avais mis Attal, mais malheureusement il n'est que quatrième.
Non, mais il n'est pas loin. C'est bon pour l'année prochaine peut-être.
Ce n'est que mérité. Il a fait une très belle saison. Mon vote aurait peut-être été différent si Edouard Mendy avait fait partie de la liste. Malheureusement, le gardien sénégalais n'en faisait pas partie et du coup, ben voilà, il s'impose. Hein, il a fait mieux cette saison, par exemple, qu'un certain Didier Drogba. Quand il était en France, c'est quand même pas rien.
En tant que joueur.
En tant que buteur et passeur. Donc il efface des tablettes, un grand monsieur du football, une légende du football international et ivoirien. Et je trouve que voilà, c'est magnifique ce qui lui arrive, mais comme disait Nabil tout à l'heure, c'est sans doute que le début.
Nabil,
on l'espère pour lui, en tout cas.
Il 24
en tout
ans.
Cas, son, ouais, 24 ans, son plan de carrière pour l'instant, il est bien géré. On parle souvent ici de joueurs, est-ce qu'il faut parfois privilégier la stabilité ou partir dès qu'une grosse offre se présente? On va en parler certainement.
On va en parler.
Ouais, il en a certainement parlé. Lui, en tout cas, à ce niveau-là, il a bien fait les choses. Sur le championnat, pour moi,
ça vous paraît logique que ce soit le meilleur joueur africain de Ligue 1 cette saison?
Ah, bah, il fait pas le même sport que les autres. J'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, il a été tout simplement, fantastique. Il a porté le LOSC vers une qualification en Ligue des des Champions. Il confirme aussi, puisque c'est aussi pas le joueur d'une saison, il confirme aussi la saison dernière, où la saison dernière, je le rappelle, alors que le LOSC vivait l'enfer, il avait réussi à aider le LOSC à se maintenir avec 13 buts et 6 passes décisives, si je me souviens bien. Il a continué son œuvre et certainement terminé son cycle avec le LOSC, en portant le LOSC vers une qualification en Ligue des Champions. Évidemment, il n'est pas tout seul, mais il y a un Lille avec Nicolas Pépé et un Lille sans Nicolas Pépé.
18 mois, sur les 18 derniers mois, pas la saison complète, puisque la première moitié de saison, c'était avec Bielsa, il n'était pas du tout dans les mêmes conditions, il avait marqué 2 buts et fait une passe décisive.
Il le mettait dans l'axe.
Il a marqué 11 ou 12 buts dans les 6 derniers mois, donc il est sur 18 mois de fou furieux. Sur
des
bases, depuis 18 mois, il est sur des bases à entre 20 et 25 buts par saison.
Mais sur Bielsa, quand on en parle avec lui et son entourage, Bielsa, ça n'a pas été qu'une perte de temps pour lui, parce qu'il l'a fait travailler devant le but en le mettant dans l'axe, et même s'il joue comme excentré, ça lui a certainement apporté en termes d'efficacité.
Eric, vous aussi, vous estimez que ce vote est somme toute logique, résultat surtout.
Bon, moi, j'ai voté pour lui aussi, donc c'est plutôt logique. Enfin, c'était dans ma logique, et après, il récolte un peu tout ce qu'il a semé cette saison. C'est vrai qu'il a commencé un peu avant, mais c'était plutôt logique. Il est quand même. Alors, il s'inscrit aussi dans un collectif. Attention, c'est-à-dire que il a sa performance individuelle, mais il a aussi été aidé autour parce que tout s'enchaînait bien et le collectif lillois a été très très impressionnant cette année.
Il y a une vraie diaspora africaine, une tradition. Hein. On l'a dit, c'est le cinquième prix Marc Vivien Foé qui vient du LOSC, le quatrième joueur, deux fois Gervinho. On se souvient de Sofiane Boufal également, de Enyama,
le gardien de but.
D'autant plus que lui, il a eu la gentillesse de venir ici dans le studio, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment de Nicolas Pépé, mais on nous a expliqué, c'est parce que évidemment, il y a un gros transfert, on en parlera dans les minutes qui viennent. Un gros transfert qui s'annonce, et donc on va dire que du côté du LOSC et de l'agence, on renvoie un petit peu la balle, mais on veut préserver, on veut pas, dit-on, faire capoter cet énorme transfert qui se profile. Et pour tout vous dire, dans les coulisses, ça n'a pas été facile de travailler sur ce prix Marc Vivien Foé.
Mais voilà, vous y étiez donc, Olivier, avec Alejandro Valente et David Calfa, c'est là que lui a été remis ce prix. Alors vous avez tout sur les pages Afrique Foot et RFI.fr, portraits, résultats, commentaires et aussi des images, mais on va commencer par l'écouter, Nicolas, parce que vous avez aussi eu le temps de vous entretenir assez longuement avec lui.
On y allait pour ça, on n'y allait pas que pour voir le réfé remettre ce joli prix, Marc-Vivien Foé, parce que moi je trouve que c'est un joli trophée. Vous pouvez aller sur le compte Twitter, RFI Sport aussi, vous verrez tout un tas de petites vidéos et vous verrez vraiment bien et le joueur et son trophée. On y est allé, on a dit la chance de pouvoir l'interviewer pendant une vingtaine de minutes. On a fait des tas d'autres choses avec lui, mais on a fait une vraie interview de 20 minutes et on a décidé de vous en proposer 4 parties. On est toujours d'accord, Annie ?
Toujours.
4 parties. La première, elle concerne sa saison et puis un petit peu son parcours, le fait qu'il n'ait jamais pris de carton rouge dans sa carrière, le fait qu'il soit perfectionniste. Alors je vous propose d'écouter d'abord Nicolas Pépé nous parler de sa saison.
C'est sûr que c'était mûrement réfléchi et au vu de la saison passée qui était assez compliquée, pour moi c'était inacceptable de partir comme ça. Voilà, pour moi, comme partir comme un voleur, et pour moi, je me devais de faire une vraie saison pleine à Lille. Et voilà, c'est sans regret, malgré les sollicitations qu'il y a eu. Et pour moi, il fallait que je fasse vraiment une saison pleine, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai réalisé.
Vous allez avoir 24 ans dans quelques jours. Oui. Vous faites preuve d'une grande maturité. On a l'impression que la carrière de Nicolas Pépé, elle est pensée, elle est réfléchie. Rien n'est laissé au hasard. Il y a un plan de carrière.
Oui, c'est sûr qu'il y a un plan de carrière. Après, voilà, j'ai des agents aussi qui gèrent ça pour moi aussi, parce que là, c'est pas facile aussi de gérer tout ça au quotidien. Voilà, ils sont là aussi pour m'épauler. Mais oui, c'est sûr que je réfléchis beaucoup. Voilà, je me précipite vraiment pas du tout sur ce qui arrive à moi. Je réfléchis beaucoup avec eux, avec ma famille aussi qui m'aide aussi. Donc pour moi, c'est plus facile aussi de jouer sur un terrain plus relâché, voilà, de penser qu'au football, parce que voilà, j'ai vraiment de bonnes personnes à l'extérieur sur qui m'épauler.
Ça fait déjà un bon bout de chemin parcouru. Quand on se replonge, vous êtes né à Mantes-la-Jolie, mais on sait que le premier contrat ou le premier club, c'est le FC Solitaire, le Solitaire FC, drôle de nom pour un club de foot hein, d'ailleurs, du côté du quartier Danube, là dans le 19e, vous avez des souvenirs comme ça qui vous viennent, et vous étiez gardien de but. Hein.
Exact. Mais les souvenirs, c'est gardien de but, c'est tout. C'était ça quand j'étais au FC Solitaire Paris-Est. Voilà, j'ai commencé ma carrière en étant gardien de but. Et c'est sûr que ça m'a servi. parce que voilà.
Et ça vous sert encore aujourd'hui,
toujours,
sans doute.
Exactement, toujours, parce que voilà, je sais comment un gardien se déplace. En étant gardien, c'est plus facile pour moi de jauger un gardien. Ça me sert beaucoup. Et ouais, pour moi, c'était une belle expérience.
Vous avez toujours des contacts de ce côté-là, des copains qui vous suivent, des gens qui sont vos racines quelque
toujours,
part aussi
toujours,
un peu.
Toujours, toujours, ils viennent presque à tous les matchs à domicile. Ils sont toujours là. Je retourne aussi là-bas pour voir aussi les jeunes de là-bas. Que, voilà, c'est aussi une force de me voir ici. Donc voilà, je donne aussi des conseils là-bas et c'est toujours un plaisir de retourner là-bas.
Et vous allez dans les buts de temps en temps à l'entraînement ici? Vous avez encore des vieux réflexes? Je me souviens, on m'a dit que vous aviez disputé un tournoi jeune, vous aviez réussi à être à la fois meilleur gardien et meilleur joueur. C'est pas banal.
Non, ça fait un moment ça. Mais de temps en temps, pour rigoler, je retourne dans les buts. Mais sans plus, après, je dis pas que, voilà, par exemple, Mike prend un carton rouge. Bon, après, bon, s'il n'y a personne, bah, je pourrais aller dans les buts parce que j'ai encore de bons réflexes. Et même à l'extérieur, en jouant aussi avec mes frères, en s'amusant, je suis souvent automatiquement dans les buts parce que c'est aussi un poste que j'aime bien.
Vous n'avez jamais pris de carton rouge, hein, vous d'ailleurs, vous en parlez là à l'instant, non. Mais jamais.
Jamais dans ma carrière, jamais pris de carton rouge. J'espère que j'en prendrai jamais.
Tout à l'heure, vous étiez en train de regarder la rediffusion du dernier match du LOSC. Oui. Il y avait une occasion de but que vous avez manqué. On vous voyait secouer la tête de dépit. Oui. On a l'impression que vous êtes vraiment pas satisfait de ce que vous faites. Vous avez parlé de votre saison passée, vous avez dit que c'était pas une bonne saison, alors que vous avez quand même marqué beaucoup de buts. Mmh. Est-ce que là, maintenant, vous avez l'impression d'avoir atteint un niveau conforme à ce que vous espériez, ou est-ce que vous n'êtes pas encore satisfait de ce que vous faites?
Il y a toujours mieux à faire. Voilà, c'est une très bonne saison que j'ai réalisée, mais voilà, faut toujours chercher à progresser, à faire plus. Maintenant, c'est une étape. Comme la saison passée, c'était une étape, j'ai voulu aussi faire plus, chose que j'ai faite. Et maintenant, c'est aussi me reposer, aller en vacances et faire plus encore la saison prochaine. Parce que c'est que le début, il faut toujours confirmer. C'est ce qui est le plus difficile dans le football. Et c'est pour ça, justement, que je ne suis jamais satisfait de la plupart de mes actions ratées.
Jamais satisfait, arrivé au LOSC donc avec les tout jeunes repérés par Marcelo Bielsa, hein, c'est lui qui avait monté cette équipe il y a 2 ans au LOSC.
Il s'est déplacé spécialement au stade Raymond Coppa
d'Angers.
C'est un des rares stades qu'il a fait pour aller voir directement un joueur. Il l'a fait pour lui et Luis Campos, qui est également la courroie de transmission du recrutement du côté
de
Lille, avait repéré ou du moins a flashé sur le joueur lors d'un Angers-Paris Saint-Germain, où Nicolas Pépé avait mis un petit peu le bouillon à l'international brésilien, qui est aujourd'hui directeur sportif adjoint, Maxwell. C'est là aussi où il l'a repéré.
Il l'avait acheté pour 10 millions d'euros à l'époque.
Franck, il y a des petites phrases qu'a Nicolas Pépé, notamment une, je suis sûr qu'elle vous a beaucoup touché, c'est son côté, sa vision sur le poste de gardien de but, puisque, alors souvent on dit que les enfants sont un peu punis dans la cour de récréation quand ils se retrouvent dans les buts, mais lui il a fait cette expérience et ça a l'air en plus de le servir en tant que buteur.
Oui, c'est ce qu'il explique dans l'entretien, c'est qu'il a, il connaît les faiblesses, il sait les repérer en fait pour avoir porté le maillot de gardien, avoir occupé ce poste quelques temps. Et du coup, ça lui donne un avantage certain sur d'autres attaquants qui souvent n'ont jamais goûté en fait à ce poste. Les gardiens professionnels aiment bien se mêler au jeu, aller dans les ateliers, dans la semaine, etc. Comme ça, pour profiter, pour montrer aussi que ce sont des joueurs de football, pas seulement des gens qui sont dans la surface. Mais c'est intéressant quand c'est l'attaquant qui a connu ça. Et pour lui, on le voit bien, on l'entend bien, c'est un avantage considérable, et y compris sur des gardiens internationaux, quoi, des gardiens importants. Et on comprend mieux maintenant pourquoi il attend en fait le bon moment pour placer. Il la met pas toujours en force. Enfin, il a vraiment un registre, une palette exceptionnelle, et ça joue forcément.
C'était amusant d'ailleurs parce que quand on est allé jeudi, l'entraînement était ouvert aux médias, ce qui est assez rare à Lille. On a assisté avec le RFI, on arrivait plutôt en fin d'entraînement. Il restait une demi-heure et l'exercice était vachement sympa. Je me tourne vers Eric Rabessandratana parce que il a dû vivre ça. L'un des entraîneurs adjoints mettait une balle dans la profondeur pour un des attaquants. Donc ils alternaient, Pépé, Bamba. pas, il connaît. Et puis il y avait un défenseur qui courait comme un taré pour essayer de les rattraper. Et puis une fois que le défenseur a été éliminé, ils étaient face au gardien. Et je peux vous dire que ça nous change des petites frappes de mulot du stade Championnel dimanche matin. Ils y allaient. Ça avait beau être le dernier, un des derniers entraînements de la saison, ça allait vite. On voyait les appuis et comme les pelouses sont massacrées, on voyait comme les défenseurs avaient du mal et comme les gardiens derrière devaient faire face. Et pourtant, c'est Mike Maignan qui a été élu hier meilleur gardien de Ligue 1. Mais c'était très intéressant de voir ces bip bip, notamment, et Nicolas Pépé au travail au quotidien. Et même si on est dans l'avant-dernière journée et que tout est joué pour Lille quasiment, ça envoyait, hein, vraiment.
Ouais, mais c'est, Eric. Ça, c'est un exercice, c'est que du bonheur pour les attaquants. Ah bah oui. Hein. Alors forcément, pour les défenseurs, c'est moins marrant. mais pour les attaquants, c'est que du bonheur. Et en plus, voilà, il le joue à fond parce que il y a toutes les conditions d'un match. C'est-à-dire que le défenseur est là pour mettre la pression, donc il faut aller vite. On n'a pas beaucoup de temps pour enchaîner et finir l'action. Et puis après, bon, c'est le talent qui parle. Et forcément, là, comme ils s'entendent bien, les trois, je pense que ça devait bien fonctionner.
C'est
la chambre.
Est-ce que c'était des ateliers, par exemple, avec les trois bips contre deux défenseurs ou quatre défenseurs?
Non, c'était un bip par un bip.
Ah ouais, un par un.
Ça fait bizarre, l'impression quand on dit des gros mots, d'entendre le bip. c'était Pépé qui partait,
c'était un défenseur qui était contre lui, plus le gardien.
C'était du un contre un et ensuite le gardien.
Alors hier à la remise des trophées de l'UNFP, donc des meilleurs de la saison, Didier Drogba était présent et Martin Guez l'a attrapé. Ah. Il l'a accroché justement pour faire parler Didier Drogba au sujet de ce Nicolas Pépé qui désormais est un international ivoirien et donc un éléphant, un de ses successeurs. Écoutons eh bien les éloges de Didier Drogba.
Grande saison pour Nicolas Pépé et dans ses choix, je pense qu'il est bon. Surtout pour lui d'avoir la chance de travailler avec quelqu'un comme Galtier, je pense qu'il apprend beaucoup à ses côtés. Moi, j'ai été bluffé par sa capacité à accélérer, à changer de rythme dans les transitions. C'est très fort et puis je pense que physiquement, c'est quelqu'un qui a de la bouteille et qui est capable de répéter les efforts dans un espace temps très réduit, c'est très fort. Oh, on a déjà discuté un tout petit peu, je vais donner 2-3 clés et bah ben non, quand même.
Franck Simon, pour bluffer Didier Drogba, il faut quand même avoir un certain talent.
Oui, et le joueur et l'homme n'en manquent pas, donc c'est clair qu'il a pris le temps de l'observer aussi. Je pense qu'il a aussi cette fierté de voir un compatriote briller aujourd'hui dans le championnat de France. Il y en a d'autres, hein. Mais lui, pour le coup, et avec ce poste il émerge, c'est un joueur émergent. Peut-être qu'il se retrouve un petit peu en lui.
Eh ben exactement. D'ailleurs, il le dit, Didier Drogba à un moment, ils ont des parcours un peu similaires parce qu'ils n'ont pas commencé dans un grand club tout de suite.
Non, ils ont écrit leur histoire.
L'un au Mans, l'autre à Angers, par exemple, dans l'ouest de la France.
Tout à fait. Ils ont certainement eu, voilà, des entraîneurs également qui les ont valorisés. Moi, quand j'écoute Didier Drogba et Nicolas Pépé, enfin, je me dis quelque part, ils sont internationaux ivoiriens, ils ont un peu la même histoire, mais c'est aussi une bénédiction pour la Côte d'Ivoire parce que c'est deux joueurs qui auraient pu aussi, et Pépé notamment, plus récemment, espérer pourquoi pas l'équipe de France, puisque les deux nationalités sportives, ils peuvent également.
Il est né à Mantes-la-Jolie.
Voilà, il est né à Mantes-la-Jolie. Donc Nicolas Pépé, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire parce que si il ne choisit pas rapidement la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est titulaire en équipe de France A, mais enfin, il n'en est pas loin. Et pour Drogba, rappelons-nous, on a souvent eu aussi ce débat. Alors très bien, son histoire s'est construite avec la Côte d'Ivoire, et franchement, elle est belle. C'est aussi un garçon qui avait le niveau pour jouer dans la grande équipe de France.
On va écouter ses camarades de jeu faisant partie de ce LOSC, et notamment eh bien, Youssouf Koné, un autre joueur de l'effectif qui est défenseur au LOSC et qui explique justement pourquoi il admire son camarade Nicolas Pépé.
Le premier jour, je l'ai vu à l'entraînement et tout. Il m'a impressionné et tout. Vraiment, aujourd'hui, moi, je suis pas étonné parce que c'est quelqu'un qui bosse, qui veut atteindre tous ses objectifs. Non, pour moi, je suis pas étonné de voir Nico à cette hauteur, quoi. C'est un bon jour aujourd'hui. Aujourd'hui, le trophée Marc Vivien qu'il a et tout, ça étonne personne, quoi. Il a montré le grand joueur qu'il était et tout. Et quand on a besoin de lui, il répond toujours présent et tout. Dans les matchs difficiles et tout, il était toujours présent. Donc aujourd'hui, Nico, vraiment, moi, il m'a beaucoup, beaucoup impressionné, Nico.
Le Malien Youssouf Koné, défenseur du LOSC, donc.
Bon, c'est sympa.
Voilà, exactement. Et autre joueur plutôt sympathique, il est ivoirien aussi, et il est de cet effectif, écoutons-le, c'est Yves Dabila.
Je dirais que c'est quelqu'un d'un peu foufou, parce que, voilà, il est beaucoup chambreux, il taquine beaucoup. Après, sinon, humainement, c'est quelqu'un de super cool, de très gentil. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui essaye d'apporter ce qu'il a comme espérance, je dirais. C'est aussi un bon atout pour moi, bien sûr, parce que Voilà, c'est un compatriote ivoirien, c'est un frère aussi, c'est un grand frère. Lui, c'est un gars, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, tu vois, il est toujours dans la perfection, en fait. Donc, que ce soit sur le terrain, il faut que, tu vois, il veut le ballon aussi, il faut que ce soit ça, tu vois. T'as l'impression qu'il est jamais satisfait, il veut toujours plus, toujours dans la perfection, il veut toujours être le premier, toujours ça, tu vois. C'est un truc qui est vraiment à souligner.
Un super professionnel et aussi un super copain, un grand frère, comme dit Yves Dabila.
Oui, ça s'est senti, encore une fois, dans ces quelques heures qu'on a passées au LOSC. C'est vrai que l'état d'esprit, c'était plutôt détendu, hein. On est sur la fin de saison, mais on a senti qu'ils sont invités en conférence de presse, ce qui n'était pas du tout prévu. On a vu les bips, là, justement, arriver tous les trois, et puis vraiment, on était dans la, excusez-moi l'expression, mais dans la déconnade. On se chambrait. Il y a un confrère de Canal qui était là, qui était en train de faire bamba, et tout d'un coup, Nicolas Pépé s'est invité, a pris le micro. Voilà, on sent qu'il y a une belle amitié, il y a une superbe saison et c'est la saison d'un groupe.
Je veux dire, il n'y a pas de hasard par rapport au résultat. On a vu l'ambiance en dehors du terrain où là ça fonctionne et on la retrouve sur le terrain. Donc forcément, après, en plus avec le talent, c'est encore plus facile d'avoir des résultats pour le LOSC.
Et avec un Pépé qui s'est affirmé tout au long de la saison, qui n'est pas tout à fait un leader, mais qui commence à l'ouvrir un peu dans le vestiaire et à se faire entendre. Il n'est pas du genre bavard, mais quand il a quelque chose à dire, nous a-t-on dit, il le dit. Et c'est ce qui est important. Alors on va l'écouter, parler de ceux qui ont compté pour lui d'abord, parler de son rapport à l'éducation, qui vient évidemment de ses parents et il y tient beaucoup.
À Angers, au centre, j'avais le directeur du centre qui s'appelle Abdel Boisama qui a beaucoup compté pour moi parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment formé à arriver au niveau, voilà, à supporter la pression parce qu'il nous formait pour ça, pas que pour le football, mais vraiment à supporter une grosse pression. Voilà, par exemple, tout un stade qui peut se retourner contre nous, voilà, plein d'événements comme ça et c'est des choses qui nous servent parce qu'on joue maintenant devant quand même au moins 30 000 spectateurs et c'est pas facile à gérer. Voilà, il nous parlait pas que du football, il nous parlait aussi de la vie. Voilà, c'était une chance pour nous d'être ici et il fallait la saisir. C'était des choses qui nous touchaient et justement, c'est des choses que j'oublierai jamais parce que c'est un coach qui m'a vraiment, vraiment servi.
L'éducation, c'est important, hein.
C'est primordial. Déjà pour arriver ici, pour avancer dans le football, c'est surtout l'éducation. Voilà, ça fait l'éducation aussi fait partie aussi de ça, du football, parce que écouter un coach, ça fait partie de l'éducation. Ne pas respecter les règles, ça fait partie de l'éducation. Donc l'éducation, c'est primordial pour avancer dans le football.
Pour ne pas perdre la tête, parce que dans le foot d'aujourd'hui, on peut perdre la tête.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de jeunes qui perdent la tête. Après, ça fait pas partie aussi de leur éducation, mais c'est l'image qu'on leur donne, l'éducation, et due justement à l'éducation que c'est important pour avancer dans le football.
Vous passez pour quelqu'un d'assez lisse, on vous entend peu, on voit pas de signes extérieurs de richesse, comme on dit, il n'y a pas de côté bling-bling, a priori, chez Nicolas Pépé. Ça vient de vos parents, ça vient de vos agents, ça vient de juste la personne que vous êtes?
Non, ça vient de la personne que je suis. Après, ça, c'est comme j'ai été éduqué comme ça aussi, par mes parents, voilà. Ne pas montrer un côté arrogant, voilà, être toujours la même personne, qu'on ait de l'argent ou pas. Voilà, toujours rester soi-même parce que voilà, ça peut nous faire perdre la tête et tomber de haut.
Ne pas perdre la tête, il a du plomb dans la tête, Franck Simon, Nicolas Pépé.
Ah ouais, ouais, c'est un garçon qui, évidemment, on l'entend bien à travers son éducation,
le sent, hein.
Son histoire personnelle et le fait qu'il soit passé par le centre à Angers. On sent que c'est quelqu'un qui est équilibré, mais c'est vrai qu'il lui manque un petit peu. Moi, je regrette ça, mais peut-être que ça viendra avec le temps. Il n'a pas ce côté, entre guillemets, showman qu'on peut retrouver chez les Ivoiriens. Et c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose de joyeux, quelque chose que les Ivoiriens aiment bien partager. Et cet aspect-là, il ne l'a pas forcément encore. Peut-être que ça va venir à mesure qu'il va fréquenter la famille des éléphants.
Et alors moi, vous savez, chaque année, je travaille sur le portrait des prix Marc Vivien Fauré. Quand ils viennent ici en studio, c'est un moment qui ouvre l'émission, ça dure 2-3 minutes. Et là, donc cette année, on a longtemps cru et espéré qu'il viendrait. Et donc j'ai travaillé sur ce portrait. J'étais bien embêté parce que je vous rejoins. C'est pour ça que je lui pose la question. Il n'est pas bling bling. Il n'y avait pas grand chose à raconter. Il n'y avait pas de
trop sage. Trop sage.
On est loin de l'Aston Martin couleur or de Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple, dont on avait parlé à l'époque. C'est quand même la voiture de James Bond. Ce gars-là l'a pas en or. Mais voilà, il n'y avait pas là, non, à part un survêt un peu bling bling qu'il avait jeudi dernier. Sinon, il n'y avait rien de particulier.
Il est lisse. Voilà.
Il est lisse. On sent l'éducation, la présence du père. Il habitait encore il y a quelques mois. C'est peut-être d'ailleurs encore vrai chez ses parents. parents, Nicolas Pépé. Hein. Donc voilà, on est très famille. Et
peut-être que ça peut évoluer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Il peut peut-être se lâcher après une telle saison. Ça peut venir au contact, justement, ce que je disais, de la famille des internationaux ivoiriens et de lui communiquer.
Oui, sur le long terme, avec la préparation et ensuite la compétition. Eric.
Ça peut ne pas être négatif aussi pour lui. C'est-à-dire que sur le terrain, ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de nerfs dans les situations un peu plus tendues. Donc ça peut se retrouver sur le terrain et lui permettre de maîtriser un peu plus ses nerfs.
J'ai pas mieux comme en chiffre aux lettres.
Merci, Nabil.
J'ai pas d'expertise sur son look, son parcours.
Je crois qu'il suffit de l'écouter. Est-ce qu'on vient sur le rapport à l'éducation et comme l'a dit très bien Franck, on sent qu'il y a quelque chose là-dedans.
En tout cas, il y a zéro faute.
C'est sûr. Et le plan de carrière est pour l'instant irréprochable.
Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Annie, sur le rôle du gardien et du joueur. Où là, il a retenu les faiblesses et tout ça. Déjà, c'est une preuve d'intelligence. C'est-à-dire que même en ayant fait ce rôle de gardien, on n'est pas obligé de retenir à peu près les défauts que ça peut amener et tout ça. Lui, il a retenu parce qu'il sait que ça peut le servir et lui permet de marquer plus de buts.
Zéro faute, vous vouliez dire en quoi ?
En termes d'image, pour l'instant, il n'a pas alimenté la gazette des faits divers.
On va passer en plein.
C'est aussi à remarquer, puisque quand ça arrive, on est là à jeter l'opprobre rapidement.
Même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de
Serge Aurier, c'est ça que vous voulez dire.
Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, lui, son terrain d'expression, c'est le terrain. Je trouve que c'est très bien aussi.
On rappelle qu'il n'a pas 24 ans, il les aura dans 8 jours, le 29 mai, pour ceux qui veulent lui souhaiter son anniversaire.
Exactement. Alors, Olivier, il y a aussi le Nicolas Pépé, qui a choisi de porter le maillot de la Côte d'Ivoire.
Il n'est pas bien, Franck Simon, il nous y a amené il y a quelques secondes, là, directement. Il ne savait pas, il ne connaissait pas le conducteur.
C'est un aspect qui m'intéresse énormément.
Alors officiellement, on n'avait pas trop le droit de lui poser la question. Puis on a amené ça astucieusement.
Ils sont comme au LOSC.
Encore une fois, on est en plein transfert. On a l'impression que d'un côté comme de l'autre, on se dit, oulala, s'il commence à dire qu'il veut faire la CAN tous les deux ans, qu'il adore ça et qu'il veut surtout se dépouiller,
c'est pas bon.
Un club pourrait l'entendre.
On ne pourrait pas le vendre.
C'est ce qu'on nous a dit. Et bien pourtant, il a accepté de parler.
Jürgen Klopp, il prend des Africains. Il n'y a pas de problème. Hein.
Il y en a un paquet.
Je suis pas sûr que ça puisse être de nature à faire capoter un transfert.
Je vais dire quelque chose, quand t'es bon, t'es bon.
Et il est plutôt bon, Nicolas Pépé, avec ses 22 buts et ses 11 passes décisives. Et l'exercice n'est pas fini, il reste une journée. En tout cas, il a parlé de ses racines ivoiriennes, de la CAN, évidemment. Et on écoute ça.
Oui, importante, parce que maintenant, je joue pour la sélection de Côte d'Ivoire. Donc oui, elles sont importantes, parce que c'est les racines de mes parents. Ce sont les miennes aussi. Donc pour moi, c'était un choix mûrement réfléchi et sans regret.
Les Ivoiriens parlent beaucoup de vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être le joueur ivoirien dont on parle le plus actuellement. Est-ce que vous êtes prêt à endosser ce rôle de leader offensif de l'équipe de Côte d'Ivoire ?
Leader offensif, je dirais pas ça, parce que moi, c'est on va dire ma première CAN. Donc pour moi, c'est nouveau. Il y a des cadres dans cette équipe qui ont déjà joué ce genre de compétition, qui l'ont même gagné, donc qui seront largement plus expérimentés que moi. Moi, j'arrive en tant que nouveau joueur, apporter un plus à cette équipe. Mais c'est sûr que, par exemple, des joueurs offensifs comme Max Gradel qui a remporté cette compétition au côté expérience pourra plus apporter que moi. Mais moi, j'apporterai plus mon explosivité, mon côté combatif, parce que ça sera aussi une CAN assez compliquée. Mais pour endosser ce rôle de leader, je dirais pas ça comme ça.
Est-ce que vous estimez que vous avez fait un choix difficile en optant pour la Côte d'Ivoire, sachant que c'est une équipe qui a une génération dorée, que cette génération dorée est, on peut dire, sur le déclin, puisqu'il ne reste plus que quelques joueurs de cette génération-là? Est-ce que vous estimez que vous arrivez à la fin d'une génération et que c'est compliqué d'assurer cette transition?
Non, du tout, parce que maintenant on arrive dans une nouvelle génération où il y a beaucoup de binationaux qui arrivent dans cette sélection, donc c'est nouveau aussi pour eux, parce que ils n'ont pas aussi la culture, on va dire, des terrains d'Afrique qui ne sont pas pareils que les terrains d'Europe. Par exemple, ça, c'est aussi des détails qui comptent, mais c'est aussi des choses où il faut s'adapter. Et on a une belle génération qui arrive avec de joueurs talentueux. Après, la génération d'Euro a eu son temps. Maintenant aussi, à nous d'écrire notre histoire, en commençant par la CAN en Égypte, où il faudra bien la préparer pour justement la gagner. Et parce qu'on aura une CAN à préparer aussi en Côte d'Ivoire, qui sera très importante pour nous.
Avant, il y a Maroc, Afrique du Sud, Namibie. Ça, c'est pas le groupe si facile.
Non, on peut dire que c'est le groupe de la mort, on peut dire ça, parce que Afrique du Sud, c'est costaud. Maroc, c'est favori. C'est favori aussi. Et voilà, Namibie aussi, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais voilà, on joue on fait ce métier justement pour jouer ce genre de match, ce genre de compétition. Donc, on sera prêt à relever ce défi et justement à passer ce tour parce que ça sera pas facile. Mais justement, pour gagner cette compétition, il faut battre les meilleurs.
Vous sentez que vous aurez les jambes parce que vous avez fait une saison incroyable. Vous aurez encore du carburant pour cette compétition en Égypte à un moment où il fera très chaud.
Oui, c'est sûr que ce ne sera pas facile au vu de la saison que j'ai faite et qu'on a fait. Mais ouais, c'est sûr que ça sera pas facile. Mais justement, on est des compétiteurs. Justement, il faudra justement bien se reposer, bien récupérer pour justement jouer ce genre de compétition.
On est prêt, ça sera pas facile. Il a déjà la tête tournée vers l'Égypte, cet éléphant Franck Simon.
Ouais, il est un peu langue de bois quand même. Hein.
Oui, bien sûr.
Il est beaucoup langue de bois. Il a une sélection Cabu, donc voilà, c'est compliqué pour lui quand même de dire.
Ce qui est compliqué, c'est effectivement quand on lui pose la question du leadership, il ne peut pas être un leader. Surtout pas, il a pas assez de bagages chez les éléphants, même s'il a fait toute cette campagne éliminatoire, mais il l'a expliqué. Je vais faire ma première Coupe d'Afrique des Nations. Il est hors de question que j'endosse la panoplie du sauveur et du leader. Mais c'est vrai qu'il a des jolies stats et il peut encore progresser dans cette équipe qui peut proposer, en fait, différentes formules sur le plan offensif. Donc c'est pas un titulaire naturel. C'est ça qui est intéressant. Il l'a dit.
Il y a 2 ans, il était sur le banc. Il n'a pas joué une minute.
Hein, enfin, c'est difficile de pas l'imaginer sur le terrain, là. Oui. Bah, ouais, mais tu sais jamais. Tu sais jamais parce qu'il y a aussi, il y a du monde. T'en sais rien.
Il y a Kiyaza, il y a Gradel. Aujourd'hui, Pépé, c'est
Pépé en équipe nationale. Bon, c'est vrai qu'il a marqué lors du dernier match de la 6e journée. Il a marqué contre le Rwanda. C'était son premier but en plus à Abidjan au Felicia. C'était quelque chose d'important pour lui. Mais en dehors de ça, ça n'a pas été l'attaquant le plus convaincant de la campagne éliminatoire. Et paradoxalement, il cassait tout en France depuis, on le disait, depuis 18 mois. Donc, c'est lui, ça, il sait très bien qu'il doit encore...
Sur la dynamique qu'il est, sur laquelle il est aujourd'hui, moi, je pense que ça créerait pas de polémique. Mais s'il est pas titulaire en sélection de Côte d'Ivoire, ça va faire parler. Je veux dire, concrètement, c'est aujourd'hui, avec Mbappé, le meilleur joueur du championnat de France. C'est un joueur qui est attendu dans un top club.
Il faut qu'il y trouve sa place. Et pour l'instant, il n'a pas été le plus convaincant en sélection. C'est ça que je dis.
Ouais, il explique très bien les terrains, l'état des terrains, les binationaux comme lui. Là, qui
c'est un connaisseur. Tu sais bien, Nabil. Il y a des joueurs qui cassent la baraque quand ils sont en Europe. Et puis, arriver des fois en Coupe d'Afrique des Nations, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut lui donner du temps. Faut lui donner un petit peu de temps et je pense qu'effectivement, et là où je te rejoins, il peut graduellement devenir devenir un titulaire dans cette équipe. Mais quand il a été aligné et sur différents terrains en éliminatoire, franchement, ça n'a pas été le plus convaincant. Je l'ai commenté regardé, 2-3 fois et honnêtement, le potentiel il est immense, mais il n'a pas encore tout montré.
Alors l'aventure africaine pour lui, c'était logique, ce choix de porter le maillot de la Côte d'Ivoire, c'était logique, mais l'avenir s'inscrit aussi avec un point d'interrogation, en tout cas pour nous, peut-être moins dans sa tête, il se tourne vers l'avenir maintenant,
oui,
Olivier.
Oui, puis l'avenir, on l'écoutera tout à l'heure, on l'entendra, Christophe Galtier en a parlé, lui l'évoque pas aussi, de manière pas aussi tranchée, on sait qu'il va être transféré, on l'a dit depuis le début de cette émission, ça va être un des très gros transferts.
De toute façon, tous les prix Marie-Vivien Fauré sont transférés.
Souvent en Angleterre d'ailleurs.
C'est marrant,
d'ailleurs.
Vivement
que je sois couronné.
Et on lui a posé la question. Je rappelle que le jeune homme qu'on entend dans l'interview, il y avait aussi avec moi David Kalfa. Et David Kalfa, pour rappel, c'est l'homme qui a créé ce prix Marc Vivien Fauré il y a 10 ans avec Christophe Carmarance, qui est aujourd'hui un jeune retraité. Puis il y avait aussi le Réfé justement. Il lui a posé cette question et on va entendre la réponse sur l'avenir. Le Réfé lui a dit le prix Marc Vivien Fauré, c'est une récompense individuelle. Dans les récompenses individuelles dans le foot, même si c'est un sport collectif, il y a le soulier d'or. Après lequel court Mbappé cette saison contre Messi. Et puis il y a aussi le Ballon d'Or. Alors quel est son avis là-dessus? Est-ce qu'il vise ses récompenses? La réponse de Nicolas Pépé.
Voilà, c'est pas des rêves, ce sont des objectifs personnels. Faut dire ça comme il est. Après, au vu de cette saison, c'est sûr que essayer de faire mieux, c'est pourquoi pas se rapprocher des souliers d'or. Et ouais, pour moi, ça va être justement passer par le travail pour arriver à ce genre de trophée individuel.
Justement, vous avez dit, les gens veulent voir si je suis un feu de paille, parce que c'est toujours ce qu'on se dit quand il y a une saison très brillante. Je suis préparé pour leur prouver que je n'en suis pas un.
Oui, effectivement. Comme on dit, dans le football, on attend toujours une confirmation. Justement, les gens vont attendre la saison prochaine, si je suis en fait paille ou pas, justement, et moi je serai préparé justement à ne pas être en fait paille, justement à confirmer, à marquer, à faire marquer, justement être efficace pour justement montrer aux gens que voilà, c'est, je ne suis pas en fait paille.
Où que ce soit.
Où que ce soit.
Quel que soit le championnat.
Exactement.
Rêver du soulier d'or, c'est évidemment la récompense du meilleur buteur européen. Mais Nicolas Pépé, il dit qu'il ne veut pas être un feu de paille, qu'il veut prouver qu'il est arrivé à un certain niveau. Eh bien, écoutons les conseils d'un de ses grands frères, un éléphant aussi, Yaya Touré, qui a dû être rassuré d'ailleurs quand il l'entend dire qu'il n'est jamais satisfait de ses actions ratées. Écoutons les conseils qu'il donnerait à Nicolas Pépé s'il le rencontrait, Yaya Touré.
Qu'il continue à travailler, toujours fait mieux, à avoir une mentalité de gagnant. C'est-à-dire, il a fait une superbe saison. Il doit se dire que la saison prochaine, il sera attendu. Il sera surveillé de très près par les joueurs, puis attendu par la presse. Tout le monde, donc, il est obligé de se surpasser. C'est le prix à payer quand on veut être le meilleur. Si tu veux être le meilleur, tu fais une superbe saison, tu dois la répéter pour le mieux possible. Et puis, ainsi de suite, après 2, 3 saisons, 4 saisons, tu mériteras la marque des grands. Parce que là, avec l'âge qu'il a, je crois qu'il a encore... plusieurs années, et puis bon voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il soit Ballon d'Or, c'est sûr.
Alors Ballon d'Or africain, oui. comme aurait dit Yaya Touré, qu'il a gagné plusieurs
monde, hein,
fois.
Ouais. Hein. Et c'est bien. Exactement. Parce qu'on parlait à une époque, Annie, ensemble, de la relève des stars au niveau du football africain, oui. Ont émergé évidemment Mané, Salah, Aubameyang qui pointait déjà le bout du nez, mais ça fait plaisir également de voir maintenant aussi des joueurs comme Pépé qui vont pouvoir rentrer dans la danse. On entendait leurs glorieux anciens que sont Drogba et Yaya Touré, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le football africain.
Dernière illustration autour de Nicolas Pépé et autour d'un possible ailleurs, horizon, transfert, eh bien c'est Nicolas Galtier, l'entraîneur...
Christophe.
Christophe Galtier, entraîneur de Nicolas Pépé. Et évidemment, il évoque eh bien, le départ de son joueur pour un club.
Il va évidemment partir dans un club plus huppé. Je lui souhaite à lui aussi de jouer la Champions League, mais il va devoir ajouter certaines choses à son jeu, parce que à ce niveau-là, on est très identifié, on est très vu. Il a aujourd'hui cette capacité à faire encore des différences sur un plan athlétique, mais quand il va monter de niveau, sur un plan athlétique, ça va être très fort. Il va devoir ajouter d'autres cordes à son arc. Je ne sais pas quelles sont les discussions, mais c'est une certitude. Il est sollicité par de grands clubs européens, des clubs habitués à jouer la Champions League. J'espère qu'il fera le bon choix, qu'il fasse un choix sportif. C'est un garçon qui me semble, depuis maintenant 18 mois que je travaille avec lui, structuré sur un plan intellectuel, dans la réflexion. Il faut qu'il fasse un choix sportif parce qu'on doit le retrouver au haut niveau. Évidemment, il y aura l'exigence du très haut niveau. Il sera confronté à une rude concurrence. C'est ça aussi qu'il va devoir assumer et accepter. Mais il a toutes les qualités athlétiques, techniques, pour aller jouer au très haut niveau.
Toutes les qualités donc pour rentrer dans une nouvelle dimension, on peut dire, surtout s'il veut disputer la Ligue des Champions, Nabil.
Il va aller où, Nabil?
Je peux pas vous dire où il va aller, mais je peux vous
résumer.
Vous
l'envoyez où?
C'est un maillot rouge, alors.
Pas forcément.
Liverpool a proposé 65 millions, mais apparemment Lille trouve que... Et ils ont raison, c'est pas assez. Ouais, ça va monter au moins à 80-90, non? Ouais.
Ce qu'ils attendent, eux, c'est effectivement autour de 80. Alors pour l'instant, un peu pour résumer la situation, c'est un peu le PSG contre le reste du monde. Donc le reste du monde, c'est effectivement deux, trois clubs anglais.
Liverpool, le Bayern peut-être.
Arsenal. Le Bayern, en fait, c'est tout le monde l'annonce là-bas, mais en fait, le Bayern.
Bah ouais, c'est ça qui est marrant.
Il y a rien de fait, pour être très sincère. Enfin, de ce que j'en sais, je dis pas que je suis dans le secret des dieux. Mm-hmm. Sur la situation actuelle, le Paris Saint-Germain, c'est sérieux. Il y a eu des discussions, des contacts. On sait que les relations entre le PSG et Lille sont nettement en train de s'améliorer. L'été dernier, notamment, il y a eu le transfert. D'Ikoné, le Paris Saint-Germain essaie de récupérer Nsoki,
ouais.
Stanley, le latéral gauche défenseur central du Paris Saint-Germain. Donc le PSG, c'est une vraie piste, ça veut pas dire qu'il va signer au Paris Saint-Germain. Il est aussi courtisé en Angleterre, vous avez parlé à juste titre de Liverpool, mais il y a aussi Arsenal qui est intéressé. En Italie, il y a eu aussi une offre qui a été transmise il y a pas si longtemps que ça, mais je pense pas que ça soit le choix préférentiel du joueur. C'est l'Inter de Milan qui a un peu ouvert le bal, et le nom du Bayern évidemment revient, ils sont intéressés, mais on a entendu ici et là que c'était fait, Mais à ma connaissance, il n'y a absolument rien de fait avec le Bayern. Et je pense qu'il a dû, entre les lignes, ils ont dû vous faire comprendre qu'il n'y avait pas de décision qui avait été prise.
Non, oui,
non, il n'y a pas de décision. Mais quand on regarde le Bayern, ils ont déjà dépensé au moins 150
millions. 100,
ouais. Ouais. Non, mais c'est plus que ça même, non?
Non, mais ils ont Gnabry, ils ont la relève, là, Gnabry, Coman. Et puis, à ne pas occulter également, je dis ça, je dis rien, le départ de Griezmann, qui redistribue aussi les cartes et un peu les chaises musicales. Et il ne m'étonnerait pas que l'Atlético Madrid puisse pointer le bout du nez dans ce dossier. Donc ça va être certainement un de ces top clubs-là pour Nicolas Pépé.
Ce qui est bien, c'est que ce qui est surprenant aussi avec Galtier par rapport à Pépé, c'est que il le vend depuis longtemps en fait. C'est-à-dire qu'il le dit, il ne restera pas avec nous et il a les qualités pour partir ailleurs dans un grand club, machin. Donc
et il espère qu'il jouera avec des champions
à part d'un entraîneur.
La saison prochaine.
Pour clore le sujet, vous le verriez bien où vous, par rapport à son style, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent.
J'aimerais bien le voir en Angleterre. J'aimerais bien le voir s'exprimer dans un championnat où les attaquants souvent se régalent. Un championnat ultra médiatisé, un championnat où il va retrouver aussi de grands joueurs africains. Et voilà, l'Angleterre, ce serait intéressant. Ouais. S'il veut vraiment franchir un grand palier, parce qu'il a, je pense qu'il a tout vu ici en France. Et
il est quand même Mbappé, il a tout vu, quoi. On en parlera peut-être après. Mais...
Et il a 22 buts, hein, comme le trio africain meilleur buteur de Ligue 1. Si vous voulez en savoir plus sur Nicolas Pépé, tout est sur les pages RFI.fr, sur la page Facebook de Radio Foot,
le
de Mondial
Twitter
Sport.
Maintenant même. On a même un compte Twitter.
Compte Twitter et aussi sur Afrique Foot et Instagram aussi, hein, il me semble aussi. Enfin bon, bref, vous pouvez avoir
RFI
plus
Sport,
de choses. Dominique Fian notamment a fait des portraits vidéo et David Kalfa donc en a écrit certains sur les pages du web. Allez, on passe bien à l'autre personnage de ce week-end et c'est Kylian Mbappé.
Le trophée UNFP du meilleur joueur de la Ligue 1 Conforama pour la saison 2018-2019 est attribué à Kylian Mbappé.
La voix de Didier Drogba pour désigner bien le meilleur espoir de la Ligue 1 pour la troisième fois et aussi le meilleur joueur de la Ligue 1 aux yeux de ses pairs, les joueurs du championnat de France qui lui ont donc attribué hier soir à Kylian Mbappé le trophée le plus important de l'UNFP. Mais Kylian Mbappé ne se suffit pas de ce genre de récompense. Aussitôt gagné, il pense au prochain. Kylian Mbappé est un homme pressé, il le dit, pressé de marquer, pressé de gagner, pressé de remporter des trophées et pressé à 20 ans seulement de voir avancer sa carrière, lui, sacré champion du monde à 19 ans, il commence à regarder l'horizon et hier soir, il a volé la vedette par cette phrase dont chacun tente de comprendre, d'interpréter le sens. Écoutons les remerciements de Kylian Mbappé, un encombrant trophée entre les mains.
Je pense que c'est un moment très important pour moi, parce que je pense que aussi j'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière, où... Je pense que j'ai découvert énormément de choses ici. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci.
Une phrase savamment préparée parce que Kylian est retourné voir nos confrères et notamment notre envoyé spécial au pavillon d'Armenonville, c'était Martin Guez, et écoutez ce qu'il a dit en complément de la phrase dite en public.
Je pense que pour moi c'était le moment de le dire. Voilà, lorsque je suis quelqu'un d'entier, lorsque je dis quelque chose, je le pense. Donc je pense que pour moi c'était le bon moment de le dire et voilà, je l'ai dit.
Vous voulez plus de responsabilité au Paris Saint-Germain ?
Comme je l'ai dit, si c'est au Paris Saint-Germain, c'est tant mieux, avec plaisir. Et si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Oulala. Oulala. Voilà, ça c'est les confrères hein, qui se disent oulala. Oh, qu'est-ce qu'il vient de nous dire ?
On n'est pas couché.
Il y a du boulot.
On va se lever tôt.
Alors, interprétation. D'abord vous, Eric Rabessandratana. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de phrase ? D'abord spontané.
Spontané, ouais, complètement spontané, je pense.
Il avait pas préparé son coup.
Si, peut-être, mais je veux dire spontané parce qu'il avait envie de le dire maintenant. Donc voilà, c'était important pour lui de le dire, mais je suis partagé en fait par rapport à ce qu'il a dit. J'ai encore l'image de ce que j'ai vu sur le match la veille contre Dijon et son attitude qui m'a un peu agacé, je vous avouerai franchement que j'ai trouvé un Mbappé avec un petit peu de J'ai trouvé prétentieux par rapport à ses réactions sur le terrain, sans parler de mais par rapport mais au jeu. C'est-à-dire que suffisant, un peu à pester après ses joueurs, les autres joueurs parce qu'ils lui donnaient pas le ballon. Alors je sais qu'il court après le trophée de et qu'il est c'est un compétiteur, mais j'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu par rapport à Mbappé. Et le lendemain, il me sort ça à l'UNFP. Donc je trouve qu'il y a la prétention, il y a le fait qu'il est
il
capable
plus de
dire
responsabilité.
Ça et que c'est un compétiteur et qu'il c'est possible pour lui de
il
dire ça.
Il a toujours
parce
dit
que,
qu'il courait après les trophées.
Donc c'est surprenant et pas surprenant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a ce caractère et cette façon d'être qui lui permet de dire ce qu'il a envie de dire au moment où il a envie de le dire. Mais c'est un mélange de mon interprétation par rapport à ça et l'image que j'ai eue la veille.
Et mais alors ça veut dire quoi? Il reste ou il s'en va? À qui il s'adresse?
Non, ça veut dire peut-être que il a des moments de prétention un peu qui peut lui faire dire des choses qui dépasse un peu ce qu'il pourrait faire. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'il soit capable de prendre les clés du camion, même si il a beaucoup de qualités, il a encore beaucoup de choses à apprendre et à développer au Paris Saint-Germain. Mais ça n'empêche pas qu'il a beaucoup de qualités et qu'il a fait beaucoup de choses cette année au Paris Saint-Germain, c'est pour ça qu'il a
un petit...
Moi, je suis un peu partagé par rapport à sa déclaration, c'est pour ça.
Mais ça veut dire, que pour vous, il reste ou
ça
il part?
Ça veut dire que, pour l'instant, il reste. Moi, je pense qu'il reste, parce que je sais que c'est difficile de partir du Paris Saint-Germain. Je sais bien qu'il a envie de partir aussi, et qu'il a la possibilité de partir n'importe où il veut. Mais je pense qu'à Paris, on va fermer un peu le dossier et l'empêcher de partir.
Nabil Djellit.
Je pense que c'est difficile de retenir de ce genre de joueurs s'ils veulent réellement partir, parce que c'est plutôt perdant en termes d'image pour un club qui est déjà en difficulté actuellement. Moi, dans cette histoire, je jette la pièce. Je ne sais pas de quel côté elle va retomber. Par contre, je me pose vraiment beaucoup de questions. Moi, je ne crois pas au côté spontané. Je pense que quand même, il y a de tels enjeux qu'il y a forcément quelque chose qui a été préparé. Le moment a été choisi. Pourquoi ? Parce que tout le monde, c'était en Mondiovision, tout le monde regardait. C'était une remise des prix. Face à lui, quand même, je rappelle qu'il y avait son entraîneur qui était là. Il ne faut pas l'oublier. Et également
Thomas
le Stoffel. FC Brésil qui était là également avec Thiago Silva et Marquinhos, qui sont eux les patrons du vestiaire.
Parce que Neymar, il était avec Rihanna, lui.
Ah, Monsieur Neymar, il fait ce qu'il veut. De toute façon, Olivier, je ne sais pas si vous l'aviez compris, mais Monsieur Neymar fait ce qu'il veut. Voilà. Sur un terrain et en dehors. Donc, pour ma part, en fait, je me pose une... Alors, je me dis, si c'est une question de revalorisation et de positionnement sur le terrain, ça m'étonne fort qu'ils choisissent un tel moment qui est consacré à une remise de prix positive. Si vous avez quelque chose à dire à vos dirigeants, le coup de pression, il va marcher même dans un bureau, dans un bureau à 4, hein, y a pas de souci, hein. Ils veulent pas vous voir partir. Donc, moi, je me dis que de toute façon, en sous-marin, il faut se dire les choses clairement, il y a le Real qui bosse et c'est normal parce que ils reconstruisent une équipe, Hazard, Benzema, et si tu mets Mbappé avec, tu redémarres sur un super cycle. D'autant que Griezmann est parti au FC Barcelone et le FC Barcelone est en train de s'armer pour contester le Real Madrid. Moi, très sincèrement, Annie, je peux pas vous répondre. Hier, plus je le réécoute, il parle du Paris Saint-Germain en utilisant le passé.
Oui. En disant j'ai appris beaucoup de choses ici.
Et puis
ici.
Il dit merci à la fin. Au revoir. Moi, très sincèrement,
mais il disait
hier,
merci à ses camarades.
Ouais, très sincèrement, hier, je me disais que c'était plus un départ. Là, je reste entre les deux. Mais s'il a choisi ce moment-là pour juste négocier une tactique de position au sein du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est une faute de communication.
C'est très mal venu, ouais.
Alors, en tout cas, évidemment, cette phrase est devenue une bombe médiatique, hein, et nous, les premiers, nous en parlons beaucoup et on se demande ce qu'il a voulu dire. Écoutez ce qui se passe du côté de l'Espagne, parce que, évidemment, on l'enverrait tout de suite au Real Madrid vers Zidane, où il avait dit il y a quelque temps, oh, Zizou, je le regarderai à la télé. Eh bien, écoutez, c'est une émission qui s'appelle El Chiringuito, et écoutez ce qui s'est passé hier. À la Madrid, alors avec un accent français très prononcé, et à la fin il rigole beaucoup cet éditorialiste en disant Nuestro Kylian, notre Kylian. Donc
il a raison, c'est
très attendu, très attendu à Madrid du côté de cette équipe.
Mais Annie, on n'a pas parlé d'une chose, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, la goutte elle doit tomber sur le visage de Nasser là, parce que ça transpire. Et on attend une réaction aussi du Paris Saint-Germain dans cette histoire.
Ça n'est que l'épisode 1 du feuilleton Mbappé de l'été. C'était l'épisode 1.
Et ça durera
ça
tout l'été.
Ça tombe bien, Game of Thrones s'arrête, le feuilleton Mbappé prend le relais.
Et c'est déjà la fin de notre épisode de Radio Foot International.
J'avais une bonne blague. Demain.
Mais je suis sûr, on y reviendra
dans l'épisode
demain.
2.
Merci
c'est
à tous, merci
pour le PSG.
À David Finzel, merci aussi à David Brockway et à demain.